Donc on continue sur l'Église en se servant de la constitution dogmatique du Concile Vatican II, Lumen Gentium, qui parle justement de l'Église au Concile donc Vatican II. Donc on a vu dans les deux premières rencontres l'Église comme le mystère de l'Église, c'est-à-dire que on a pris des images, enfin le Concile a pris des images bibliques, des images de la Bible qui parlent de l'Église, et surtout on a vu en finale que l'Église elle était à la fois divine et humaine, et qu'on ne pouvait pas séparer sa dimension divine de sa dimension humaine, et même si la dimension humaine dont nous sommes a besoin de se transformer, de se convertir et de se purifier, il n'empêche que l'Église est sainte parce qu'elle est aussi, elle a aussi une dimension divine. Ensuite, dans le deuxième chapitre, on a vu que l'Église, c'était le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et ça, c'est pas vraiment une nouveauté du Concile Vatican II, parce que déjà, autrefois, les pères de l'Église en avaient parlé, mais c'est quand même nouveau que l'on mette ça en avant. C'est-à-dire que l'on montre que l'Église, c'est d'abord un peuple. Le peuple qui appartient à Dieu, le peuple qui suit son Seigneur, et donc que nous sommes tous, quelle que soit notre place dans l'Église, nous sommes tous membres de ce peuple. Voilà. Nous sommes d'abord le peuple de Dieu. Dans le troisième chapitre, on a vu la constitution hiérarchique de l'Église, donc simplement de voir que Jésus, aux côtés de ses disciples, qui étaient nombreux, qui formaient donc le début d'un peuple nouveau, eh bien, il en avait choisi 12, les 12 apôtres. Et qu'ensuite, à la suite de ces 12 apôtres, eh bien, d'autres ont été choisis pour continuer la mission des apôtres, des 12 apôtres. Donc c'est les évêques, avec comme collaborateurs les prêtres, et puis aussi les diacres. Et puis que dans cette Église, avec cette structure hiérarchique, eh bien, les évêques avaient une place très particulière comme successeurs des apôtres, et qu'ils étaient, ils avaient un sacrement, c'était un sacrement spécial qui faisait d'eux des évêques. Parce qu'avant, on ne savait pas trop si l'évêque, ce n'était pas un super prêtre, simplement. Et maintenant, on sait très bien que l'évêque, c'est quelqu'un qui reçoit un sacrement spécial pour être évêque, c'est la plénitude du sacerdoce, et que les prêtres sont des collaborateurs des évêques. C'est ce qu'on appelle la sacramentalité de l'épiscopat, et c'est le Concile Vatican II qui a défini cela. Donc c'est pour ça que, bon, autour de l'évêque, quand même, il y a on donne une certaine reconnaissance à l'évêque. Et puis, parmi les évêques, il y a celui qui est le successeur de Pierre, qui a un rôle très particulier, qui garde à la fois l'unité de l'Église, et en même temps, cet évêque-là, l'évêque de Rome, il est celui qui protège la foi de l'Église. Voilà. Et donc là maintenant on arrive au chapitre 4. Et dans ce chapitre 4, eh bien, il est question des laïcs. Après avoir parlé de la constitution hiérarchique de l'Église, on parle des laïcs. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'introduction de ce chapitre sur les laïcs, le Concile rappelle que les laïcs font partie du peuple de Dieu, ou que plutôt le peuple de Dieu, dedans, eh bien, contient tout le monde. Il contient les laïcs, les religieux et le clergé, c'est-à-dire ceux qui sont ordonnés. Et que tout ce peuple est uni par un lien, finalement, qui est un lien très important. C'est pas un lien de moi, je suis responsable sur les autres, tout ça, comme une hiérarchie, comme on peut trouver dans la société civile, hein. Mais le lien qui nous unit, c'est le lien de la charité. C'est en ce sens qu'on est un peuple qui est uni par la charité. Alors, je cite, et je pense que je l'ai mis sur vos feuilles, l'Épître aux Éphésiens, qui est cité par le Concile. Il faut en effet que tous, par la pratique d'une charité sincère, nous grandissions de toute manière vers celui qui est à la tête, le Christ, dont le corps tout entier, donc c'est l'Église, dont le corps tout entier l'Église, grâce à tous les ligaments qui le desservent, tire cohésion et unité, et par l'activité assignée à chacun de ses organes, opère sa propre croissance pour s'édifier lui-même dans la charité. Donc c'est la charité qui fait le lien entre les différents membres, et le corps du Christ, qu'est l'Église, a besoin de ses membres, a besoin que chacun prenne sa place. Alors que veut dire le terme laïque ? C'est ce que, dans le paragraphe 31, que veut dire le terme laïque ? Eh bien, pour le Concile, les termes laïques, il faut entendre ceux qui ne sont pas prêtres, diacres ou évêques, et aussi ceux qui ne sont pas religieux. Parce que le Concile, vous pouvez regarder dans le plan, il traite des religieux à part. Il traite dans un chapitre, chapitre 6. Et donc les laïcs ont cette caractéristique, c'est qu'ils sont, ils ont leur mission dans la vie de la société, du monde. Ils ne sont pas à part, ils sont complètement dans le monde. Et donc c'est une mission très particulière que les religieux et les clercs ne peuvent pas avoir. Donc la vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu à travers les choses de la vie quotidienne, les choses temporelles, comme on appelle, hein, les choses temporelles, c'est-à-dire les choses du temps, les activités de la vie quotidienne, toutes simples, qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, ça veut dire qu'ils vivent dans la société, ils ne sont pas à part. Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire ils sont engagés dans toutes les activités du monde, dans la vie ordinaire, la vie de travail, la vie sociale. Et ils sont invités dans cette activité quotidienne. Finalement, ils font un peu ce que les autres font, mais ils sont invités de le faire avec la présence du Christ et selon l'Évangile. Et ils sont invités à porter un témoignage de leur vie chrétienne dans leurs activités toutes simples de la vie quotidienne. Au paragraphe 32, le Concile parle de la dignité des laïcs comme membres du peuple de Dieu. Alors, parce que je vois que le temps passe vite. Le Concile, la dignité des laïcs dans le peuple de Dieu, je ne sais pas comment vous le percevez spontanément, mais on peut être tenté de croire que les laïcs, ils sont en bas. C'est la base, ils ne font pas grand-chose. Puis il y en a d'autres, les religieux, les prêtres et tout ça, qui font le gros du travail, c'est eux qu'on voit plus. Or, justement, le Concile dit quelque chose de très très important, c'est qu'il dit qu'on est tous égaux et que Dieu a besoin de nous de façon égale, mais à des places différentes. Et on a besoin les uns des autres. Et qu'on doit tous, il n'y a pas d'inégalité entre nous, entre les différentes vocations dans l'Église. Et puis, il reprend une parole que saint Paul utilise dans ses lettres, il n'y a aucune inégalité qui viendrait de la race, de la nation, de la condition sociale. C'est très important, ça, dans une communauté chrétienne. La condition sociale, malheureusement, un constat, c'est que au niveau, on est encore très, très, en tant que chrétien, on est très attaché à nos couches sociales. On ne se mélange pas tant que ça au niveau entre chrétiens. Et c'est vraiment très dommage, parce que ce n'est pas l'Évangile. Donc, il n'y a pas de différence de condition sociale, de sexe. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un dans le Christ Jésus, nous dit l'Épître. Il y a donc une unité entre, et une égalité entre tous les membres, y compris avec les ministres, ceux qui ont la responsabilité de conduire le peuple de Dieu, hein, les ministres ordonnés. Tous sont appelés à la sainteté. Alors ça sera l'objet la prochaine catéchèse, puisque c'est le chapitre suivant. Et ils ont une foi qui les rend égaux, et le baptême nous rend égaux les uns aux autres. Voilà, ça c'est un point très très important. Le Concile reprend le thème des pasteurs. Les pasteurs sont au service des fidèles, et les fidèles apportent leur aide aux pasteurs, autant qu'ils le peuvent. Voilà, donc il y a une complémentarité, on a besoin les uns des autres, encore une fois. Alors, on reprend cette parole de saint Augustin, qui est une très très belle parole, qu'on a entendue souvent, que moi j'ai dit quand je suis arrivé ici, quand j'étais nommé curé, et je la relis. Et c'est le Concile qui l'a dit. D'être là, alors, saint Augustin est évêque donc il parle en tant qu'évêque. Il dit « D'être là, pour vous, me remplit de terreur. » En tant qu'évêque, il est terrifié, sa mission. « Mais d'être là avec vous me rassure. » C'est-à-dire, en tant que baptisé, en tant que membre du peuple de Dieu, de communauté chrétienne, il est rassuré. Parce qu'on a besoin les uns des autres. « Car pour vous, je suis évêque. Avec vous, je suis chrétien. » Cela exprime un devoir, évêque. Ceci est une grâce, être chrétien. Cela évoque un péril, évêque. Ceci est le salut, être chrétien. Alors on voit bien comment saint Augustin exprime bien un petit peu comment le pasteur, lui, peut vivre tout cela. Comment on doit percevoir les choses. Alors au paragraphe 33, il traite de la vie salutaire et apostolique des laïcs. Alors, je vais aller vite aussi, parce qu'il faut que j'arrive au texte que vous avez dans les mains. En fait, ce qu'il est dit, c'est que les laïcs ont une mission d'évangélisation du monde, de sanctification du monde et d'évangélisation du monde. Et que les prêtres et les religieux, les clercs et les religieux, ne peuvent pas évangéliser le monde de la même manière que les laïcs. Et que sans les laïcs, eh bien, les choses se feront à moitié, on va dire comme ça, à moitié pour ne pas dire... C'est-à-dire que le laïc, il peut, dans sa vie quotidienne, son travail et tout ça, mettre l'évangile d'une façon unique que le prêtre ne pourra pas, que le religieux ne pourra pas faire. Et c'est important de prendre conscience de ça. Ils sont des témoins de l'évangile d'une façon unique, par leur manière de vivre et aussi... par leur profession de foi, quand on leur demande de rendre compte de leur foi dans leur milieu de travail, dans leur milieu d'engagement, dans des associations, y compris en milieu politique, car il faut aussi s'engager en politique, et puis dans tous les milieux. Et la deuxième chose, c'est qu'ils peuvent être appelés parfois, les laïcs, à collaborer avec la hiérarchie, avec les hommes qui sont en responsabilité de l'Église, à collaborer en fonction des besoins. C'est ce qui se fait dans notre Église. Voilà. Ensuite, la participation des laïcs au sacerdoce commun et au culte. Paragraphe 34. En fait, le Concile va reprendre les trois fonctions dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'en ai parlé pour la paroisse et j'en ai parlé à d'autres occasions. Trois fonctions, qui est donc la fonction sacerdotale, la fonction fonction sacerdotale, c'est la prière, pour résumer très vite. La fonction prophétique, c'est l'enseignement et c'est l'évangélisation, donc la catéchèse et tout ça, ce qu'on fait maintenant aussi. Et puis, enfin, la fonction royale, c'est le service et faire que le règne de Dieu puisse s'étendre dans notre monde. Alors, d'abord, le sacerdoce commun. Alors, on peut lire notre texte. « À ceux qu'il s'unit intimement dans la vie, dans sa vie et dans sa mission, le Christ, hein, il accorde en outre une part... dans sa charge sacerdotale pour l'exercice du culte spirituel en vue de la glorification du monde et du salut des hommes. » Bon. C'est pourquoi les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, reçoivent la vocation. Alors, consécration au Christ, c'est le baptême, l'onction de l'Esprit Saint, c'est la confirmation. Reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. Donc, ils peuvent porter du fruit. Ils sont invités à porter du fruit, c'est leur vocation. En effet, toutes leurs activités, leur prière, et la prière des laïcs n'est pas une affaire facultative de l'Église. On ne peut pas dire, il ne suffit pas qu'il y ait quelques religieux qui prient ou quelques prêtres qui prient pour que tout le monde prie, pour que l'Église, enfin que le Seigneur soit content de son Église, on va dire comme ça. Non, on a aussi, les laïcs ont aussi une vocation de prière adaptée. Il ne s'agit pas d'être comme des moines, bien sûr, mais... il y a une vocation de prière. Leur prière, leur entreprise apostolique, tout ce qu'ils vont faire, leur vie conjugale, familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, si elle est vécue dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Offrande spirituelle. Et c'est cela la vocation sacerdotale du baptisé, le sacerdoce commun des fidèles, c'est d'offrir donc toute leur vie, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils portent. Et ceci se fait, et dans particulièrement dans la célébration eucharistique, rejoint le corps du Christ pour être offert en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde. C'est fort ça, les laïcs consacrent à Dieu le monde en faisant comme ça, rendant à Dieu, par la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Voilà. Ensuite, paragraphe 35, la participation des laïcs à la fonction prophétique du Christ et au témoignage. Le Christ, grand prophète, qui par le témoignage de sa vie et la vertu de sa parole a proclamé le royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de sa gloire. Alors là, c'est très important, non seulement par la hiérarchie, parce qu'on peut penser que justement, les prêtres, ils prêchent, ils évangélisent, enfin, ils évangélisent, ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais ils essaient, ils prêchent et tout ça, que les religieux aussi font ça, et puis que finalement, les laïcs n'ont pas besoin de le faire. Ben non, c'est pas ce qui est dit. Non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs, dont il fait pour cela des témoins, en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale, la vertu de l'Évangile. Ils se présentent comme les fils de la promesse, lorsque, fermes dans la foi et dans l'espérance, ils mettent à profit, là aussi c'est important, le moment présent. Donc lorsque c'est dans le moment présent qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. C'est ni dans le futur, ni dans le passé. Le passé c'est fini et le futur c'est pas venu. Donc c'est dans le moment. Ils mettent à profit le moment présent pour mettre l'Évangile, pour mettre la présence du Christ, l'Évangile, et pour annoncer l'Évangile, et en même temps, dans le moment présent, et en même temps, et attendent avec constance la gloire à venir. Attendent avec constance la gloire à venir. C'est-à-dire qu'ils sont tournés vers l'avenir. Ils savent où ils vont. Alors que notre monde, me semble-t-il, ne le sait pas. Il fait marcher. Il faut que le monde marche, mais on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que le chrétien sait où il va. Et ça, c'est très important. Cette espérance, ils ne doivent pas la cacher dans le secret de leur cœur, mais l'exprimer aussi à travers les structures de la vie du siècle, c'est-à-dire toute la vie quotidienne, par un effort continu de conversion et en luttant contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal. Et donc, ça c'est une citation des Éphésiens, donc ils sont invités à mettre la présence et l'espérance de l'Évangile au sein de toutes les structures de la vie sociale et à lutter contre tout le mal qui est dans le monde, à dénoncer le mal, à dénoncer, à lutter contre lui, sans compromis. Voilà. Et puis, le Concile va parler aussi du mariage et de la famille en disant « Le mariage et la famille est une vocation importante » et une vocation exigeante, et donc Dieu a voulu qu'il y ait un sacrement spécial pour aider les familles et le mariage. Voilà. C'est une vie exigeante, et ils doivent rayonner aussi de l'Évangile et de la présence de Jésus dans toutes les dimensions, donc dans la famille, hein. L'Évangile doit rayonner dans toutes les dimensions, et vivre fidèle à l'Évangile et à l'enseignement de l'Église, la morale conjugale, la vie de prière, la connaissance de la foi par la formation, la lecture de la parole de Dieu, la droiture dans la vie privée, dans le travail, l'engagement politique, etc. Et dans tous les aspects. Voilà. Par conséquent, les laïcs peuvent et doivent, même occupés par leurs soucis temporels, exercer leur vie pour l'évangélisation du monde. À défaut de certains ministres ordonné, ou bien quand il y a des persécutions et qu'il ne peut pas y avoir de prêtres, eh bien les laïcs peuvent aussi assurer une suppléance pour certains offices sacrés. Pas pour tout, pas pour la messe, pas pour la confession, pas pour la confirmation, mais pour un certain nombre d'offices, le laïc peut apprendre sa responsabilité si on manque vraiment trop de prêtres et aussi aussi on est en situation de persécution. C'est ce qu'on a vu dans certains pays, hein. Il y a des pays où ils ont vécu plusieurs siècles sans aucun prêtre. Et les catholiques ont continué à vivre, mais ils attendaient. Et donc, dès que la persécution s'est arrêtée, ils ont accueilli avec joie les prêtres. Voilà. Et puis, enfin, il nous est rappelé aussi, toujours dans la fonction prophétique, que c'est important que les laïcs se forment. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je fais quelques petites catéchèses. C'est pourquoi les laïcs doivent chercher à connaître plus profondément la vérité révélée et à demander instamment à Dieu le don de la sagesse. Le laïc ne peut pas rester hyper formé au niveau professionnel ou sur d'autres domaines des passions et puis, en tant que chrétien, ne connaître presque rien de sa foi chrétienne. C'est important qu'il soit formé. Et une communauté formée est une communauté dynamique en général. Voilà, ensuite, la participation des laïcs au sacerdoce, au service royal. Le Christ s'étant fait obéissant jusqu'à la mort, et pour cela même ayant été exalté par le Père, est entré dans la gloire de son royaume. À lui tout est soumis, en attendant que lui-même se soumette à son Père avec toute la création, afin que Dieu soit tout en tous. Ce pouvoir, donc ce pouvoir où le Christ a tout en main, il l'a communiqué à ses disciples pour qu'ils soient eux aussi établis dans la liberté royale, pour qu'ils arrachent le péché par leur abnégation et leur sainteté de vie. Bien mieux, pour que servant le Christ également dans les autres, ils puissent, dans l'humilité et la patience, conduire leurs frères jusqu'au roi, dont les serviteurs sont eux-mêmes des rois. En effet, le Seigneur désire étendre son règne également avec le concours des fidèles laïcs. Donc il y a une fonction dans le service du Christ et le service des autres qui fait que le règne de Dieu s'étend. Son règne est un règne de vérité, de vie, un règne de sainteté, de grâce, un règne de justice, d'amour et de paix. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Règne où la création elle-même sera franchie de l'esclavage et de la corruption pour connaître la liberté glorieuse des fils de Dieu. Grande est la promesse, grand est le commandement donné aux disciples. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Donc, le laïc a une mission de présenter le monde et de faire que le règne de Dieu soit dans le monde. Voilà. Et le Christ illumine le monde, donc non seulement par la parole des papes et tout ça qui donne quelques enseignements, mais je ne suis pas sûr que ça illumine toujours le monde, hein, mais par la vie sainte des laïcs dans le monde. C'est comme ça que le monde, que la société humaine est éclairée par le Christ, par la vie des fidèles. Voilà. Les fidèles ont aussi des droits et des devoirs. Ils doivent dialoguer avec la hiérarchie de l'Église. C'est ce qui est mis dans le point suivant, le lien avec la hiérarchie. Il est normal que l'on discute dans l'Église, que l'on dialogue. Ils doivent dire leurs sentiments auprès des ministres de l'Église avec sincérité, charité et respect. Voilà. Ça, c'est pour dire que c'est normal qu'il y ait du dialogue dans l'Église. Simplement, au final, il faut quand même conserver l'obéissance chrétienne aux pasteurs sacrés qui représentent le Christ et décident au nom de leur magistère et de leur autorité dans l'Église. D'ailleurs, il faut dialoguer, mais en même temps, il faut rester dans l'obéissance au Christ à travers les ministres. Voilà. Alors, les pasteurs sont invités à demander conseil aux laïcs et à demander des charges dans l'Église, et puis laisse aussi la liberté d'action des laïcs. C'est-à-dire que quand les laïcs ont le droit d'avoir des initiatives, et les pasteurs sont invités à les accompagner, à les soutenir, aussi à discerner si ces mouvements sont bons, mais en tout cas, ils sont invités à stimuler les entreprises des laïcs, dans tous les domaines. Voilà. Voilà. Et puis je termine en disant cette parole de la lettre à Dignoniette. Ce que l'âme est au corps, est dans le corps, il faut que les chrétiens le soient dans le monde. Ce que l'âme est dans le corps, il faut que les chrétiens le soient dans le monde. Voilà la vocation des laïcs, être l'âme au sein de ce monde. Amen.